Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, Sapiens Néandertal, qu'ont-ils encore à nous dire ? À quoi ressemblerait un monde qui ne connaît pas la guerre et si peu la violence ? Un monde où la coopération l'emporte sur la compétition, où les inégalités sociales n'ont pas lieu d'être parce que les ressources sont suffisantes pour satisfaire les besoins. Un monde où les frontières sont d'autant plus ouvertes qu'elles n'existent pas. Ce monde fait-il partie de notre futur ? En tout cas, il appartient à notre passé lointain, la préhistoire. C'est ce que nous enseignent les découvertes permanentes et passionnantes sur nos ancêtres Sapiens et Néandertal. Car oui, nous avons quelque chose en nous de Néandertal. Alors, si les comparaisons entre notre temps et le leur a évidemment ses limites, il est tout de même tentant de bâtir quelques ponts. Car bien avant nous, ils et elles ont été confrontés au changement climatique, aux migrations, à la gestion des ressources, à l'organisation des sociétés ou encore aux pratiques culturelles. Alors Sapiens, Néandertal, qu'ont-ils encore à nous dire ? On en discute avec deux invités. Marilène Patoumatis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes préhistorienne, directrice de recherche au CNRS, co-commissaire scientifique de l'exposition Néandertal qui a lieu en ce moment au Musée de l'Homme. C'est à Paris et c'est jusqu'au 7 janvier prochain. Et vous avez publié, alors je vais en citer une seule hein, parmi vos nombreuses publications, un dictionnaire Néandertal de A à Z chez Alary Éditions. C'était publié cette année. Pour discuter avec vous, Sylvana Condemi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléo-anthropologue, vous aussi directrice de recherche au CNRS, rattachée à l'université d'Aix-Marseille. Vous avez publié vous aussi cette année chez Flammarion avec François Savatier, dernière nouvelle de Sapiens. Vous connaissez bien également Néandertal, puisqu'avec le même auteur et chez le même éditeur, vous aviez sorti, c'est un petit peu plus ancien, c'est
2016,
Néandertal, mon frère, 300 000 ans d'histoire de l'homme. Alors avant que de savoir ce que Sapiens et Néandertal ont encore à nous dire, je voudrais peut-être qu'on commence par se demander ce qu'ils ont bien pu se dire, car ça, c'est quand même un fait avéré aujourd'hui. Sapiens et Néandertal ont été contemporains, et plus que cela, ils se sont rencontrés, ils se sont croisés, Marilène Patoumatis.
Oui, alors déjà, faut voir les régions. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une période où ils se sont rencontrés, au Proche-Orient, là-bas. Et parce qu'à un moment donné, si les Néandertaliens sont apparus en Europe, d'une souche européenne, et ont vécu principalement en Eurasie, il y a quand même une partie, quelques groupes qui sont partis au Proche-Orient. Et là, il y avait des sapiens. Et donc là, ils se connaissent depuis un certain temps. Il y a débat sur l'origine. Est-ce qu'il y a 100 000 ans? Est-ce qu'il y a 120 000 ans? En tout cas, ils se sont connus déjà. Et par contre, en Europe, il y a leur arrivée plus tardive des sapiens vers 43-45 000 ans. Et là, il y a débat. C'est-à-dire qu'on pense que peut-être que certains des Néandertaliens, notamment ceux qui étaient en Europe occidentale, en Angleterre, en France, etc., n'ont peut-être pas vu vraiment des sapiens. Par contre, dans les Balkans, en Europe orientale, ils se sont croisés, rencontrés.
Il faut dire que les territoires sont vastes et que les populations de ces groupes, à l'époque, sont extrêmement faibles. Donc les chances pour que leurs routes se croisent sont quand même relativement limitées, Sylvana Condemi.
Oui, les densités de population ne sont pas celles que nous connaissons aujourd'hui, ça c'est très important. Mais pour repréciser, pour que tout le monde comprenne, c'est que pendant que Néandertal se différencie en Europe, en Afrique, il y a la différenciation de Sapiens. Donc ce sont deux groupes frères dans deux régions géographiques et ce n'est que quand Sapiens sort de l'Afrique qu'il va rencontrer Néandertal et comme a très bien dit Marilène, d'abord au Proche-Orient, ensuite en Asie et enfin en Europe.
Quand il sort de l'Afrique, il le fait pour quelle raison d'ailleurs ? Est-ce qu'on le sait ? C'est le goût de la découverte ou bien c'est pour fuir un potentiel danger ?
Alors il y a plusieurs sorties d'Afrique et au fait aussi peut-être que le terme que nous employons, et nous sommes tous fautifs dans ce sens, « sortie d'Afrique » n'est pas un terme exact. Il faudrait dire « extension du territoire de Sapiens ». Parce qu'au départ, ce n'est pas vraiment une sortie pensée pour des raisons particulières. Et on sait aujourd'hui qu'il y a eu plusieurs extensions de Sapiens de l'Afrique vers l'Asie. Et la première, on la trouve aux alentours de 180-190 000 ans. Ça, ce sont des études récentes cette année au Proche-Orient. Ensuite, on trouve encore une extension. Il faut voir que le climat qu'il y avait à l'époque au Proche-Orient, dans la péninsule arabique, n'était pas très différent de celui dans l'époque dont je parle, hein, de celui qui était en Afrique de l'Est. Et ensuite, il y a eu plusieurs vagues comme ça de sorties, dont une très très importante, qui est une véritable sortie pour des raisons climatiques, aux alentours de 60 000 ans.
Alors on pourrait sans doute qualifier Sapiens de peuple migrateur, c'est un qualificatif qui pourrait lui convenir. Est-ce qu'on pourrait en dire autant de Néandertal, Marie-Hélène Patou-Matisse ?
Oui, alors déjà, c'est vrai que Sapiens a migré, mais il ne faut pas oublier qu'avant, il y a une migration très importante, qui est la migration de ce qu'on appelle d'une façon générale les Homo erectus, c'est-à-dire qu'il y a quand même un peuplement plus ancien. Donc on a l'impression que, en fin de compte, dans les espèces humaines, quelles qu'elles soient, il y a quand même toujours ce déplacement, ce besoin en tout cas cette migration. Donc ça, c'est important. Et c'est vrai que les Néandertaliens, on a un déplacement, parce que actuellement, d'après justement les paléanthropologues comme Sylvana, on a plutôt une souche qui est plutôt de l'Europe occidentale. C'est-à-dire que c'est à partir de là, d'une souche, bien sûr, de Homo erectus, qui serait venu donc dans cette région et aurait donné naissance à la lignée des Néandertaliens. Et donc, eux, déjà, ils ont aussi migré. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé en Europe orientale. On n'a pas de site archéologique ni de reste de Néandertaliens avant 130, 140 000 ans. Donc, en Ukraine, par exemple. Donc, ils se sont déplacés, mais c'est plus petit. Ils ont été aussi au Proche-Orient. Mais il n'y a pas cette grand déplacement, si j'ose dire, de plusieurs groupes et tout, sur toute l'Eurasie et jusqu'en Asie, etc.
D'autant que ce que vous expliquez, hein, dans votre dictionnaire, Marie-Hélène Patou-Matisse, c'est que si migration il y a bien chez Néandertal, ce sont pas forcément des départs définitifs, ce sont des migrations saisonnières et que les, je sais pas comment il faut les appeler, les groupes, on va dire, les sociétés néandertaliennes reviennent très régulièrement sur les mêmes lieux.
Bien sûr, on a des sites où on a une occupation sur 80 000 ans, vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses très intéressantes dans ces migrations qui sont relativement restreintes, mais aussi il faut voir l'immensité du territoire pour le peu de population. Il y a un fait important, la densité de population, ça c'est fondamental. Et là, on est dans des chiffres. Alors moi, j'en donne pas parce que je trouve que c'est impossible à faire. Mais on sait très bien qu'il y a très peu de monde pour la superficie. Donc c'est des déplacements aussi là qui sont pas forcés, quoi. Comme c'était votre question. Non, je ne crois pas qu'ils aient été poussés parce que d'autres hommes voulaient les faire sortir.
Bon, alors il y a en tout cas des preuves qui paraissent a priori irréfutables qu'il y a bien eu une rencontre, ou en tout cas des rencontres, entre Sapiens et Néandertal. Bah, c'est un des outils finalement de communication qui existe entre les humains, pas seulement d'ailleurs entre les animaux, ce sont les échanges corporels. C'est-à-dire, on sait que Néandertal et Sapiens ont eu des enfants ensemble, Sylvana Cordini. Et ça, c'est pas une découverte si ancienne que ça. Hein.
Non, c'est-à-dire, c'est nous paléanthropologues, au moins certains des paléanthropologues défendaient quand même cette théorie depuis très très longtemps. C'est-à-dire, il y avait des fossiles, surtout d'ailleurs des fossiles néandertaliens d'Europe centrale, qui étaient donc de la dernière époque des Néandertaliens, donc on s'y situe aux alentours de 50 000, 45 000 ans, il y a 45 000 ans, qui présentaient des caractères un peu différents de ceux qu'il y avait auparavant. Donc, certains paléanthropologues avaient envisagé cette rencontre. Mais elle est devenue vraiment réelle quand on a pu travailler sur l'ADN ancien, fossile, notamment quand on a pu travailler pas simplement sur l'ADN mitochondrial du néandertalien, mais sur tout le génome du néandertalien, on s'est rendu compte, et sur le génome également, de anciens fossiles sapiens, qui eux montrent également des traces de Néandertal dans leur génome.
Voilà, j'ai vu que les traces, elles étaient évaluées entre 1,8% et 2,6% d'ADN néandertalien qu'on retrouve aujourd'hui chez les Eurasiens, ce qui veut dire, étant donné l'éloignement de la période de ces croisements, Marie-Hélène Patou-Matisse, que ça a été des croisements assez importants pour qu'il en reste quand même des traces aussi sensibles, disons, aujourd'hui.
Bien sûr, et puis cette fourchette, vous savez, ça bouge beaucoup, parce qu'il y en a qui disent que c'est plutôt aussi vers 3, puis on va le côté oriental de l'Europe, vers l'Asie, bon, il y a un débat, mais en tout cas, ça signifie que c'était pas simplement, c'était populationnel, quoi. C'est-à-dire que c'est pas seulement des tout peu, j'allais dire un peu méchamment, parce que c'est un peu le mythe de la préhistoire, des viols, etc. Bon, non, pas du tout, on est quelque chose de plus organisé. Mais ce que je voudrais aussi dire, c'est que ces croisements au Proche-Orient ne sont pas non plus étonnants, parce que quand on voit les cultures, quand on travaille sur les sites archéologiques, les matériaux, on s'aperçoit qu'en fin de compte, aussi bien les Néandertaliens que les Sapiens, à ces périodes, on va dire vers 100 000 ans pour schématiser, au Proche-Orient, que ce soit en Palestine, que ce soit en Irak, ils ont la même culture. Par exemple, l'industrie, c'est le moustériens du Levant, ils font la même chose. Ils chassent les mêmes espèces. Ils chassent des aurochs, ils chassent des daims, des gazelles. Donc déjà au niveau culturel aussi, ils sont proches. Ils enterrent leurs morts. Donc on a des rapprochements, si j'ose dire, aussi qui sont au niveau culturel. Et ça, je crois qu'il faut pas l'oublier. Il y a du biologique, mais il y a aussi du culturel.
Est-ce que ces outils culturels communs, Marie-Hélène Patoumatis, ça peut être aussi de l'ordre du langage? Alors un langage plus ou moins articulé, mais en tout cas, est-ce que ce que l'on sait des capacités cérébrales, disons, et de Sapiens et de Néandertal, leur permet peut-être d'échanger, alors si ce n'est des mots, mais en tout cas des sons qui peuvent participer à une communication?
Moi, je crois qu'il ne faut pas se priver de dire qu'ils échangeaient des mots. Pourquoi vouloir absolument que ça ne soit que des sons? Je pense que là...
Je reste prudent face à des spécialistes.
Non, mais tout le monde essaie de toujours rester prudent et on veut absolument rediscuter de cette vieille lune comme quoi, en fin de compte, il n'y a que les sapiens qui auraient un langage vraiment articulé avec des mots. Moi, je crois qu'il faut quand même raison garder et petit à petit, on s'aperçoit bien qu'au niveau le rapprochement génétique, qu'au niveau rapprochement culturel, qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas déjà chez les Néandertaliens un langage articulé. Après, qu'il soit moins ceci, plus cela, la syntaxe, ça c'est autre chose. Mais je crois qu'il faut quand même un peu arrêter sur ça, parce qu'il y a quand même des capacités cognitives qui sont tellement installées, montrées par les industries et tout, que je pense que le langage articulé était déjà présent chez les Néandertaliens.
Vous évoquez d'ailleurs dans votre dictionnaire des tentatives pour reproduire la voix de Néandertal, qui aurait été une voix aiguë, nasillarde et plus puissante que la nôtre. Sylvana Condemi.
Oui, je voudrais compléter, c'est-à-dire que pour comprendre vraiment la rencontre Néandertal-Sapiens, il faut vraiment que nos auditeurs comprennent qu'on est face à des populations de cueilleurs-chasseurs. C'est-à-dire ce sont des cueilleurs-chasseurs, même quand Sapiens arrive sur le territoire du Néandertalien, il a quasiment le même mode de vie. C'est un cueilleur-chasseur. Donc, la première idée qui vient, c'est que quand on arrive dans un nouveau territoire, eh bien, moi, a priori, je serais très, très contente de rencontrer des humains qui m'expliquent comment est ce territoire. Et je pense que pour les sapiens qui se sont déplacés, ça a dû être une aubaine de tomber sur des Néandertaliens, sur d'autres populations qui connaissaient bien le territoire, qui pouvaient indiquer quand arrivaient les troupeaux, comment ils arrivaient les troupeaux, où se trouvait la matière première, tout ça. Et de toute façon, pour revenir à la communication qu'ils ont pu avoir... Alors, on ne peut pas exclure qu'il y a eu des moments où peut-être il y a eu de l'agressivité. Ça, on ne peut pas l'exclure. Mais ça me paraît, vu les densités de population de l'époque, il y avait suffisamment de nourriture pour tout le monde pour que ce soit plutôt une communication d'échange du point de vue génétique et culturel.
Mais est-ce que là, on est encore dans l'hypothèse ou bien est-ce qu'on a des preuves qui sont aujourd'hui des preuves irréputables que ces rencontres se sont faites sans violence? Parce que vous dites, quand on arrive sur un nouveau territoire, on est content de rencontrer d'autres humains parce qu'on va pouvoir justement faire des échanges. Mais alors moi, qui suis un humain du 21e siècle, je me dis, attention... je vois des gens qui arrivent sur mon territoire, ils vont me piquer les bêtes dont j'ai besoin pour ma nourriture, les fruits et, oui, dont j'ai besoin. Donc je vais plutôt les voir comme des, si ce n'est des ennemis, mais en tout cas des adversaires.
Bon, d'une part, encore, la densité de population fait qu'il y avait suffisamment de ressources pour tout le monde. Donc je crois que le sens de propriété privée, de territorialité, dépend aussi du besoin qu'on a pour sa propre communauté, pour son propre clan, déjà. Et après, pour venir aux preuves d'agressivité, alors on a bien travaillé, nous, anthropologues, sur les os, sur les dents, sur tout ce qu'on peut trouver dans les sites, et on a étudié en particulier les derniers Néandertaliens, à l'époque où arrive Sapiens, pour voir si on trouve des traces de violence sur les os. En réalité, on n'en trouve pas. On trouve des traces de blessures, comme on en trouve dans des époques avant, mais on ne peut pas dire qu'il y a une augmentation de blessures et qui se voit sur les os des Néandertaliens à l'époque de cette rencontre. Donc, du point de vue anthropologique, on ne peut pas étayer la violence.
Marie-Hélène Patoumatis.
Oui, oui, c'est un sujet qui est très intéressant parce que c'est aussi là, ce que j'appelle les vieilles lunes, les choses qui reviennent sans arrêt. Forcément, l'homme préhistorique était très violent.
On en sort quand même.
On en sort, mais c'est difficile. Moi, j'ai fait un bouquin sur la préhistoire de la violence et de la guerre. C'est très difficile parce qu'on reste sur ces clichés-là. Alors qu'en réalité, comme le disait Sylvana, il y a une très belle densité. Puis, pour qu'il y ait violence, il faut qu'il y ait des raisons. Et les raisons, là, elles sont quasiment absentes. Parce qu'il y a beaucoup d'abondance. Même pendant les périodes glaciaires, il faut bien voir qu'au niveau de la biomasse, notamment des animaux, il y en a énormément. Donc, je pense que les conditions n'étaient pas là pour qu'il y ait la violence. Et surtout, au niveau des traces, exactement, on a des traces de fractures, etc., qui sont probablement plutôt des accidents de chasse. On n'a pas vraiment de traces de violence. Peut-être interpersonnel, mais c'est très rare.
Est-ce qu'on peut aussi
et surtout,
voir d'ailleurs
on n'a pas de charnier.
Est-ce qu'on peut aussi voir une forme de pragmatisme, Marianne Patoumati, c'est-à-dire que ces populations sont suffisamment peu nombreuses pour ne pas prendre, disons, le risque de se faire la guerre. Elles ont plutôt intérêt à coopérer plutôt que de chercher à s'éliminer.
C'est vrai que j'aurais une tendance à être Kropotkine, vous voyez. C'est-à-dire que je pense que notre évolution, il faut pas la voir comme une sans arrêt en compétition. Je pense qu'à un moment donné, c'est parce que justement l'humanité est culturelle très tôt. Donc on a plutôt cette tendance d'entraide et de coopération parce que c'est ça qui permet de la survie. Ce sont des petits groupes qui sont dans un monde où ils doivent tout prendre sur cette nature, hein, et puisqu'ils sont ils sont des prédateurs, ils domestiquent pas. Donc, ils ont besoin de coopérer déjà au sein, entre eux, mais aussi au niveau des autres. D'avoir ce nexus, ce réseau pour justement, là aussi, à un moment donné, au niveau de la reproduction, il faut bien aller chercher ailleurs. Donc, je pense qu'il faut faire très attention parce que là aussi, c'est un cliché. C'est des choses qu'on veut absolument qui viennent du 19e siècle, hein, la création de la représentation de l'homme préhistorique. Et je crois qu'il faut faire attention. Il n'y a pas de charnier. Et d'un autre côté, je voudrais tout de suite préciser parce que c'était assez amusant de penser toujours que c'est Sapiens qui arrive et tout, alors qu'il est dans un territoire inconnu, tout, et c'est lui qui va forcément exterminer Néandertal. On peut très bien, si on est dans ces trucs de violence, que je ne suis pas du tout, on peut très bien, pourquoi pas, envisager l'inverse, parce qu'il est sur son territoire, il est très costaud et tout. Au départ, en plus, ceux qui arrivent, ils sont pas très modernes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont pas encore développé tout leur armement plus sophistiqué que celui de Néandertal. Donc, si vous voulez, il y a toujours aussi cette image, c'est toujours le pauvre Néandertal entre guillemets, qu'il va se faire massacrer alors que par les autres. Et aussi, ne pas oublier que c'est plusieurs vagues et des petits groupes. C'est pas les hordes d'Attila qui déferlent sur l'Europe. Donc là aussi, il faut faire attention à ça.
Les territoires sont vastes, les ressources sont abondantes. Donc il n'y a pas de nécessité d'avoir cette idée qu'on va inventer beaucoup plus tard, qui est celle de la propriété. Est-ce que c'est justement au bout de... À partir du moment où il y a une forme de sédentarisation, Sylvana Condemi, et donc on commence à accumuler des biens et donc à devoir les contrôler, les surveiller, que ça va basculer dans autre chose.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sédentaire, à partir du moment où on a du stockage, et surtout à l'étape suivante, quand on va devenir vraiment sédentaire mais néolithique, c'est-à-dire producteur de nourriture, et notamment devenir paysan, là, tout va changer, parce que le territoire est important, le stockage est extrêmement important parce qu'il sert à la fois pour nourrir la communauté, mais également pour pouvoir également planter pour l'année suivante. Donc là, la territorialité est beaucoup plus importante et c'est d'ailleurs pas le fruit du hasard que c'est à ce moment-là qu'on voit vraiment la guerre apparaître et là, on a des preuves indiscutables.
Mais est-ce que c'est pas aussi la condition de notre survie à travers le temps? C'est-à-dire, alors là, je parle de Sapiens, Sylvana Condemi, je vous posais la même question évidemment à vous, Marilène Patoumati, c'est-à-dire il y a sédentarisation, il y a accumulation. L'accumulation, elle permet aussi de prospérer, c'est-à-dire la population va se développer, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est là pour parler de nos ancêtres.
Ben justement, ce qui se passe, et on le voit très très bien, on passe de communautés néandertaliennes et les premières communautés sapiens, qui sont des petits clans de faibles effectifs, et on voit dans les dernières 40 000 ans de notre histoire, on voit une progression démographique. Et cette progression démographique devient de plus importante avec vraiment le néolithique. Parce que ce qui se passe du point de vue anthropologique avec le néolithique, il y a une nourriture qui est constante. Bon, déjà, on change de nourriture. On produit des céréales. C'est des sucres lents qui donnent de l'énergie. On a de la viande à disposition parce qu'on l'élève. Et ce qui est très important, c'est que chez les cueilleurs-chasseurs, on connaît la dynamique des populations. On a un enfant environ tous les 3 ans. À partir du moment où on se sédentarise, qu'on devient néolithique, on a un enfant tous les ans. Alors, la mortalité infantile reste importante, mais la population éclate devient de plus en plus grande et aujourd'hui on est à 7 milliards et demi d'humains, on est encore dans cette progression du néolithique.
Marie-Hélène Pateau-Mathis, c'est la propriété privée qui fait à la fois qu'on va commencer, que les humains vont commencer à se faire la guerre, à s'entretuer, et c'est aussi la propriété privée qui peut expliquer le fait que Sapiens est à ce point prospéré.
Moi je pense qu'il y a deux choses. Déjà il faut savoir aussi qu'il y a des communautés qui n'ont pas ce que vous appelez progresser. Moi, je déteste ça, parce que je crois qu'on est dans du buissonnant.
J'ai dit prospérer, je crois.
Voilà, mais c'est mieux. Non, mais parce que tellement, j'entends tellement progresser. Et parce qu'en fait, il y a des chasseurs-cueilleurs qui sont venus presque jusqu'à nous et qui ont bien vécu. Il faut arrêter de dire qu'ils ont survécu. Non, ils ont vécu pendant des milliers d'années sans être modernes, entre guillemets. Donc, il y a ça, il y a ce concept, enfin, cette vision, je dirais aussi, probablement différente de l'environnement. C'est-à-dire que là, nous, on raisonne en tant que très éloignés de la nature, que ne dépendant que d'une façon différente, puisque ayant domestiqué cette nature, je veux dire que le rapport à elle est déjà complètement différent. Et de ce fait aussi, je crois que ça a entraîné donc cette notion de domination. Donc, d'où peut-être à ce moment-là associé aussi de justement de propriété. C'est-à-dire que c'est vrai que je veux pas jouer mes Rousseau, mais c'est vrai qu'à un moment donné la question s'est posée à qui appartient le champ. Je veux dire, ça c'est pas une nouveauté. Mais je pense que ce qu'il faut voir c'est à mon avis aussi les changements dans la tête. C'est-à-dire que il y a pas seulement l'économie qui a fait que ça a changé, c'est aussi que la structure a changé. Le fait d'être plus prédateur mais producteur a entraîné un changement social différent, à modifier totalement les rapports sociaux entre justement ceux qui possédaient pas et surtout ceux qui, on voit tout de suite la caste qui arrive en premier, c'est les guerriers pour protéger les silos, etc. Donc, et guerrier va dire aussi esclave, parce qu'on a besoin de plus en plus de main d'œuvre. Donc, la société va aussi, ça prend plusieurs millénaires, va aussi complètement changer. Mais ce que je veux revenir, ce qui est important à mon avis aussi, et qui peut-être actuellement pose un problème, et là je reviens dans l'actualité, c'est que je crois qu'il faut faire attention à vouloir faire des mégapoles. Je pense que là aussi, on s'aperçoit quand même que les petites structures ont un comportement social entre eux, etc., une entraide ou quelque chose qui est mieux géré et qui se tient. Si on veut absolument tout mettre en mégapole, ça devient problématique. Et je crois que là, pour revenir dans l'actualité présente, je pense qu'il faut repenser les territoires en petits territoires.
Et c'est justement en essayant de faire des ponts entre la préhistoire et puis notre actualité qu'on a pensé cette émission. Sapiens Néandertal, qu'ont-ils encore à nous dire en votre compagnie à toutes les deux? Donc Marie-Hélène Pateau-Mathis qui est préhistorienne et Sylvana Condemi qui est paléo-anthropologue. Alors avant la sédentarisation, on a donc des micro-sociétés.
On a une société clanique qui est un peu disposée en satellite, c'est-à-dire des petits clans qui vivent, parce que quand on est
qui vivent comment, qui vivent dont les membres vivent sur un pied d'égalité. Est-ce que ça, on a les moyens avec la recherche de savoir si, parce qu'on parle beaucoup d'inégalité sociale aujourd'hui, est-ce que ce sont des sociétés qui sont très égalitaires?
Alors il y a ce sont des hypothèses, parce qu'on peut comment voir l'égalité, hein, mais la seule chose qu'on peut dire c'est que quand on est une communauté de cueilleurs-chasseurs, on ne peut pas nourrir des groupes de 100, 200, 1000 personnes. Donc, ce sont des petits groupes qui ont environ 25, 35 personnes maximum, qui vivent interconnectés, ces groupes, ces petits clans vivent interconnectés. Et à l'intérieur de ces petits clans, il y a une structure qui est faite avec des hommes, des femmes, des enfants, des adolescents. Alors, comment vivent-ils? Alors, là, c'est le grand problème de la l'égalité des sexes, l'égalité dans le travail. Nous n'avons pas de preuves directes de comment était la subdivision des tâches à l'intérieur. Mais bon, là aussi, peut-être, il faut revoir un peu nos idées. On a toujours pensé que les tailleurs d'outils étaient des hommes et que les femmes se contentaient de prendre les outils taillés des hommes.
Idem pour la chasse, hein. On voit l'homme qui chasse le mammouth et puis femme qui fait la popote.
Dans le livre qu'on a écrit avec Françoise Abattier, on défend l'hypothèse que la chasse pouvait être une chasse collective dans laquelle chaque personne participait selon ses possibilités, par rabattre le gibier, par créer du bruit, faire peur aux animaux, etc. Et que la mise à mort ne pouvait être faite que par certains individus les plus forts. On peut aussi imaginer que ceux qui cuisinaient utilisaient des outils et étaient capables de les réaffûter, qui n'avaient pas forcément le grand personnage dans la communauté qui faisait des outils et qui les réaffûtait pour tout le monde.
Marie-Hélène Patou-Mathis, on parle beaucoup de l'homme de Néandertal, on ne parle pas souvent de la femme de Néandertal.
Oui, non, c'est mon, pour tout vous avouer, c'est mon prochain sujet d'étude. Là, je travaille beaucoup sur ça en ce moment, mais surtout sur la, sur l'idéologie. C'est-à-dire que moi, je pense que beaucoup de choses qui sont actuellement dites en préhistoire s'enracinent dans le 19e siècle. On a créé des présupposés, des préjugés, etc. Et je crois que ça en fait partie, c'est-à-dire que là, on a une vision aussi du 19e siècle, c'est-à-dire que la femme n'avait pas de statut, n'était rien du tout dans la société au moment où on a découvert la préhistoire, enfin, où la préhistoire s'est installée. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va mettre des clichés. Et on s'aperçoit très bien que, par exemple, pour tailler un outil, actuellement, il y a nos collègues qui taillent des outils, les femmes, qui taillent des outils remarquablement bien. Donc, je veux dire, il n'y a pas besoin, je vois pas pourquoi ça serait un homme. La même chose que pour aller peindre la Lascaux. Pourquoi voulez-vous que ce soit toujours alors, on représente toujours des hommes qui peignent Lascaux. Donc, tout ça, je dis, voilà, ce sont des choses qui sont tellement inscrites dans notre société. Par contre, je veux dire qu'au niveau des Néandertaliens, on a quelques petites informations, c'est pas grand-chose et tout, mais on peut déjà regarder quand même que, bien qu'il n'y ait pas énormément des sépultures, de voir que dans les sépultures néandertaliennes, on n'a pas de différence. C'est-à-dire qu'on enterre tous les âges, les femmes, les hommes, il n'y a pas plus de dépôts funéraires, d'offrandes, entre guillemets, avec les hommes ou les femmes, bon, on voit rien. Mais aussi, le fait, à El Cidron, on a des études qui sont des études génétiques sur 12 squelettes, ce qui est énorme, il y a 13 individus, mais 12 squelettes, on a fait l'ADN, et on s'est aperçu, alors c'est ce groupe-là, c'est pas tous les Néandertaliens, il faut faire aussi attention de ne pas généraliser. On dit toujours l'homme de Néandertal, c'est très vaste, hein, bon. Mais en tout cas, les Néandertaliens à El Cidron, en Espagne, d'après la composition de la population, ce sont des Néandertaliens qui ont été mangés, par qui, ça on ne sait pas, parce qu'il ne nous reste que les manger, et donc on a des hommes, des femmes et des enfants, et on s'est aperçu qu'il y avait bien sûr une parenté, mais en plus que probablement donc des femmes étaient venues d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la patrilocalité. C'est-à-dire que c'est les femmes d'un autre clan qui viennent dans le clan. Bon, ça donne un petit éclairage. Donc on essaye là de voir en fin de compte la possibilité, parce qu'on peut voir ça d'une façon négative, mais aussi d'une façon très positive. Ça veut dire que si les femmes viennent, elles amènent, supposons, comme je le pense, qu'il y a un langage articulé, un dialecte, et aussi de la culture de l'autre groupe. Donc elles favorisent aussi le développement de relations entre les différents clans.
Alors ces sociétés qui coopèrent, ces sociétés qui sont relativement égalitaires, elles paraissent assez enviables. Sauf que c'est peut-être justement en sortant de ces schémas-là que l'espèce Homo sapiens a pu continuer à se développer. D'ailleurs, sur la question de la répartition et des tâches, et des tâches sexuées notamment, vous émettez une hypothèse. Alors on est vraiment beaucoup, c'est assez logique, au stade des hypothèses. Sylvana Condemi, dans votre livre « Dernière nouvelle de Sapiens », hypothèse que la répartition des tâches entre les individus et les sexes pourrait être à l'origine du succès évolutif de notre espèce.
C'est-à-dire que ce qui se passe, quand on regarde un peu justement les données archéologiques, on se rend compte qu'il y a au néolithique et un peu avant une explosion déjà démographique, qu'il y a les femmes donc font énormément d'enfants, donc elles sont prises dans ces tâches. Il y a quelque chose qui se passe avec le néolithique qui est très important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la nourriture est de meilleure qualité. Donc, les individus sont, d'une façon générale, beaucoup plus sains, donc vont vivre plus longtemps. Et il y a aussi une chose qui se passe à ce moment-là, c'est que si on vit plus longtemps et nous avons une caractéristique, nous sapiens, au moins les femmes sapiens, on peut vivre très longtemps après l'époque de la fertilité. Donc, il y a possibilité dans les communautés que les femmes qui sont ménopausées prennent en charge les enfants, ce qui permet aux femmes en âge reproducteur faire d'autres enfants. Et voyez, c'est une coopération accrue, donc une division des tâches.
Une coopération dont on sait bien qu'elle va se traduire par la suite par des formes d'inégalité. Donc on a presque l'impression que finalement que, en renonçant à certaines formes de liberté, Sapiens a réussi à se maintenir. Peut-être, est-ce que ça pourrait être d'ailleurs l'objet de la différence entre Sapiens et Néandertal. En tout cas, expliquer le fait que Sapiens soit encore présent et Néandertal
de presque plus. De toute façon, cette hypothèse-là n'est valable qu'à partir du néolithique ou avant le néolithique, peut-être déjà au Gravettien, mais pas pour les sapiens qui arrivent à l'époque de Néandertal. Il faut voir qu'à l'époque des sapiens qui arrivent dans le territoire néandertalien, ce sont des individus cueilleurs-chasseurs qui ont exactement, au moins à partir des données archéologiques, on ne voit pas de différence de comportement. Ce n'est que après une époque qu'on appelle l'Aurignacien, qui est après l'époque d'or des Néandertaliens et la fin des Néandertaliens, qu'on commence à voir des choses qu'on n'a pas vues avant. C'est-à-dire de l'art figuratif, des statuettes féminines. Donc là, on a l'impression que la société commence à se structurer d'une façon différente. Par exemple, il y a une hypothèse, on a des grottes ornées assez tôt, peut-être déjà à la fin des Néandertaliens, mais de toute façon à l'Aurignacien. Et ces grottes ornées, c'est une telle maîtrise qu'on peut imaginer que déjà dans la société où il y a ces grottes ornées aurignaciennes, il y a déjà une structuration, il y a des artistes qui sont pris en charge par la communauté. Si ces artistes sont pris en charge par la communauté, ça veut dire qu'on a déjà une structure à l'intérieur de la communauté. Il n'y a pas que des cueilleurs-chasseurs, il y a aussi des gens qui restent pour décorer les grottes et pour faire d'autres activités.
Marianne Patomatis, est-ce qu'on peut supposer que c'est peut-être parce que Néandertal n'a pas été capable de se structurer de manière peut-être aussi subtile et poussée que Sapiens, qu'il n'a pas réussi à passer le cap de l'évolution pour venir jusqu'à nous?
C'est-à-dire que cette hypothèse me gêne beaucoup. Parce que que fait-on de tous ces peuples qui n'ont pas changé d'économie? Comment peut-on dire ça? Puisque des sapiens sont restés très longtemps en Australie, au Kalahari, en Amazonie, ils sont restés des peuples chasseurs-cueilleurs. Très longtemps. Donc ils ont bien vécu, ils ont traversé des millénaires. Donc je vois pas comment ça peut être un argument. C'est trop généralisé parce que ce sont des sapiens, ce sont pas des et ils ont ce style d'économie a survécu.
Donc moi je pense que c'est pas l'organisation, c'est pas la violence.
Moi je pense que si vous voulez,
c'est un mystère quand même la disparition.
Oui, enfin bon, c'est sûr que on pourrait discuter, mais moi ce qui m'intéresse de voir, si vous voulez, c'est qu'en fin de compte, ce qui va se passer dans ce changement d'économie dans certains groupes. C'est surtout que ça va modifier, on en parlait tout à l'heure, le système social, et qui va avoir des conséquences phénoménales. Par exemple, vous parlez sur la femme. Quand vous vous mettez dans une société justement néandertalienne, par exemple, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que l'enfant il sort du ventre de la mère. Point barre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'enfant, il sort de la femme. Donc là, on est plutôt, et ce qui va perdurer très longtemps, dans une société où probablement la femme, ce qu'on a traduit par le côté matrilinéaire, va avoir cette importance. Et puis à un moment donné, quand il va y avoir ce changement important d'économie, il va y avoir des biens. Donc ces biens-là, à un moment donné, il va falloir là aussi se dire à qui ça appartient. Et très souvent, on va commencer à dire, oui, mais alors si on va les transmettre, alors moi je vais être sûre de les transmettre à ma descendance. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer là aussi, au niveau des femmes, si vous voulez, à faire une espèce de division là, sexuelle du travail, et aussi pour la maintenir dans ce facteur de reproduction et surtout l'enfermer. Bon, ça c'est je veux pas jouer les Françoises Héritier, mais ça commence là. C'est-à-dire que pour moi, si vous voulez, le fait de dire que actuellement, parce qu'on a justement cette société qui a changé d'économie et sociale, c'est une réussite de l'expansion. C'est pas suffisant parce qu'il y a tous les autres peuples à côté qui ont quand même duré pendant longtemps. Ça, c'est très tardif pour moi. Ce côté vraiment où, en fin de compte, on domine de plus en plus tout, c'est quand même, pour moi, la période historique. Voilà. Donc, je veux dire, c'est tout à fait différent. J'ai toujours peur de retourner à cette façon de dire, en fin de compte, les peuples chasseurs-cueilleurs sont des peuples qui sont, on va dire, un peu inférieurs, comme on l'a considéré très longtemps. Je crois pas. Je crois qu'ils ont une forme de modernité par leur cosmogonie, par l'évolution de leur vivre ensemble.
Et puis une capacité d'adaptation qui est quand même assez phénoménale. Il y a un phénomène dont on n'a pas encore parlé, et on est déjà presque au terme de cette émission, et qui est un phénomène alors auquel on est directement confronté aujourd'hui, c'est le changement climatique. Sapiens Néandertal, qu'ont-ils encore à nous dire? Qu'ont-ils encore à nous dire sur, justement, au moins leur capacité à eux de s'adapter à des changements qui sont des changements, alors évidemment sur des temps très longs, Sylvana Condémique, mais qui sont des changements très importants.
Alors, les Néandertaliens ont vécu des grosses crises climatiques, hein, c'est-à-dire il y a eu des fluctuations climatiques, ils ont c'est des hommes du froid, du chaud, c'est-à-dire il y a des époques qui étaient chaudes comme aujourd'hui, des époques extrêmement froides, mais ils ont toujours été faibles du point de vue démographique. Sauf il y a une époque aux alentours de 100 000 ans où vraiment, et là c'est une époque qui ressemble à la nôtre du point de vue climatique, point de vue chaleur, où vraiment apparemment il y a une densité de population plus importante. Ils vont coloniser une partie de l'Asie et une partie du Proche-Orient.
Mais, cette capacité d'adaptation, on la retrouve moins chez Sapiens ?
Alors non, parce que faut dire que par exemple, quand il y a la grande crise climatique, quand Sapiens sort aux alentours de 60 000 ans, il se passe quelque chose. On sait qu'il y a eu des grands événements climatiques qui se sont produits. Il y a eu une grande sécheresse en Afrique. On sait qu'il y a eu des volcans qui ont créé aussi des grands nuages des grands nuages qui n'ont pas permis pendant plusieurs saisons d'avoir des pâturages, et donc les animaux devenaient un peu plus rares. Donc la chose qui est importante pour moi, c'est que ce qui pousse les humains à sortir de leur endroit, c'est quand ils ne peuvent plus vivre. Et pourquoi on ne peut plus vivre? C'est quand les conditions climatiques changent, donc on n'a plus assez de nourriture, ou alors parce que justement il y a des conflits entre humains qui très souvent sont provoqués par le manque de ressources.
Ce qui rejoint évidemment des préoccupations très contemporaines, Marilène Patoumakis.
Voilà. Oui, là on est vraiment dedans. Je pense qu'il faut faire attention justement à tous ces changements qui poussent l'homme à partir, et tous ces changements actuellement qui sont quand même assez négatifs. Et par rapport au climat, ce qu'il faut quand même aussi souligner, c'est qu'il y a eu des changements climatiques tout au long, parce qu'on dit souvent, oui, mais en fin de compte, pourquoi on s'alarme actuellement parce qu'il y a des changements, il y en a toujours eu, sauf qu'il y a du temps. C'est-à-dire qu'il y a les adaptations, les résiliences, il y a du territoire, donc les gens peuvent se déplacer, etc., sans gêner les autres, hein, c'est parce qu'il y a une faible densité.
Et puis il y a une différence donc, aujourd'hui, c'est qu'il y a une responsabilité humaine qui est directe.
Voilà, qui est directe. Hein. Et là, c'est après, et quand même, ce qu'on peut dire, que ce soit l'espèce sapiens ou néandertal, il y a quand même toutes les espèces humaines. Il ne faut pas oublier que même avant ces deux-là, si j'ose dire, il y a eu beaucoup d'espèces humaines. Et il y a quand même eu toujours des adaptations, ils ont su s'adapter, et la preuve, c'est qu'on est là en fin de. Pour l'instant, en fin de course. Et donc, il y a cette, ce qu'on appelle le mot à la mode, un peu cette résilience quand même de nos ancêtres directs, des sapiens, et des sapiens, évidemment.
Non, ce qui est aussi très important aujourd'hui, c'est que nous sommes plus de 7 milliards et demi. Oui. C'est-à-dire que des terrains qui ne sont pas occupés, où il n'y a pas d'autres personnes, il n'y a pas d'autres modes de vie, il y en a très très peu. Donc, c'est-à-dire, c'est différent d'être un homo sapiens qui part de l'Afrique il y a 50 000 ans, il y a 60 000 ans, pour coloniser des terres vierges ou avec très très peu d'habitants, et aujourd'hui partir dans d'autres régions. Et ça, c'est vraiment une... C'est-à-dire que je pense que ce qu'il va falloir faire, c'est d'une part essayer de protéger notre planète un peu plus, et puis penser comment faire pour pouvoir nourrir de plus en plus d'humains, puisque les prévisions, c'est à 2050 d'être 10 milliards d'humains. Donc je pense que ça demande un grand bouleversement de nos habitudes alimentaires.
Et pour terminer, je voudrais citer justement une partie de votre conclusion, Sylvana Condémique. Il est manifeste qu'une nouvelle transition anthropologique s'amorce. Elle va nous faire sortir de la mentalité néolithique pour nous faire entrer dans un nouveau type de psychisme. Même si cela n'est pas encore évident, Sapiens reste Sapiens, c'est-à-dire sage. Gageons que par force, il va le devenir de plus en plus. Bah voilà, on va peut-être terminer sur ce pari-là. On verra bien s'il se vérifierait ou pas. Mais enfin, disons qu'on croise les doigts. Et je vous remercie l'une et l'autre d'avoir participé à cette discussion. Donc Marilène Patoumakis, je renvoie à votre dernier ouvrage chez Alary Édition, Néandertal de A à Z. On peut aussi bien sûr aller voir l'exposition L'exposition Néandertal, c'est au Musée de l'Homme, c'est à Paris. Un catalogue est publié chez Gallimard.
Jusqu'au 7 janvier.
Et puis, Sylvana Condemi, dernière nouvelle de Sapiens, c'est publié chez Flammarion. Oui, jusqu'au 7 janvier. Dernière nouvelle de Sapiens chez Flammarion. Et puis Néandertal, mon frère, chez le même éditeur à chaque fois, avec François Savatier. Merci à toute l'équipe du Grain, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richet, Antoine Dulster, Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Émilie Valla, avec à la prise de son Thibaut Nassimben. Alors on se retrouve demain à 18h20. Dans un instant, vous retrouverez Lucille Como pour la dispute. Tout de suite, c'est l'heure du rappel des titres. We'll be right back.